et vous écoutez France Culture. Le mystère d'Ouillet, c'est ça. Je suis dans mon atelier et tout d'un coup, j'ouvre une porte. Je me retrouve ailleurs. Et le soir, je ressors de cet ailleurs et je referme la porte. Mais pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui a ce soir planté son antenne et établi son bivouac dans l'atelier parisien de Philippe Druyer, au père de Lonslow, Durm le Fou de Vuse, qui fête en 2016 ses 50 années de razzia graphique, est en effet consacré chez Mel Publishing une monographie monstre, l'occasion pour Mauvais genre de replonger une fois encore dans les abîmes de sa nuit. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui n'est pas ce soir dans le studio de Radio France, mais bien en un lieu élu, puisque nous sommes, je le répète, dans l'atelier de Philippe Druyer. Bonsoir Philippe Druyer.
Ce dont je suis très flatté.
Ben, nous on est très très flattés.
Il y a 3500 acteurs ici, avec 14 000 micros partout, c'est étonnant, nous sommes
production
à Hollywood.
Hollywoodienne, un vrai péplum radiophonique, merci d'en être le héros et d'en avoir autorisé le tournage.
J'ai le casque romain et la jupette.
Voilà, très bien.
Ce qui est vraiment une
photo sur notre site. Merci en tout cas pour votre accueil Philippe Druyer, et puis on est vraiment très heureux de pouvoir commémorer ce demi-siècle de bande dessinée, de peinture, d'illustration, de conception
d'objets. Que ça, il y a plus que ça,
bah, vous allez nous.
Et 50 était un joli chiffre.
Voilà, donc restons là, restons à ces 50 années. Je serai en compagnie de, alors à l'autre bout, Céline Duchesnay, comment va-t-elle ?
Ben, je vais bien, bonsoir François, bonsoir Philippe.
Et à l'autre bout, à l'autre bout de l'atelier, Antoine Guillot, où êtes-vous ?
Je suis à l'entrée de l'atelier, voilà. Devant des artefacts et des affiches qui évoquent à la fois le cri, les yeux rouges et la mort décharnée.
Voilà, vous êtes dans le recoin sûrement le plus macabre du lieu, on s'en saura plus un peu plus tout à l'heure. Bonsoir Jean-Pierre Dionnet.
Bonsoir.
N'oubliez pas ne pas être là.
Eh bien, oui, forcément, parce que quand Philippe parlait de 50 ans, il a commencé un peu plus tôt que moi, mais moi je suis à 50 ans de carrière, et en gros, ça commence vraiment grâce à Philippe Druyer, qui m'emmène à Pilote. Je fais deux pages avec lui, prophétique, puisque nous faisons ensemble un avion meublé en style 1900 galets et autres français, le plus bel avion du monde. Il n'a qu'un défaut, il ne peut pas voler tellement il est lourd.
Quelques renseignements sur l'avion, Philippe Druyer.
L'avion était une folie intérieure entre Jean-Pierre et moi, mais ce qui est important, c'est que Jean-Pierre, quand il a connu René Goscinny, René Goscinny lui a transmis un message important que Jean-Pierre a pratiqué ensuite, excusez la voix parce que j'ai eu un petit accident, et Jean-Pierre s'en est servi pour Métal hurlant. Et la recette de René Goscinny et d'Albert Uderzo, parce que la plupart des dessinateurs de ma génération sans Astérix n'aurait pas existé, parce que personne ne voulait de moi. Et Jean-Pierre a appris de René Goscinny que, même si parfois on ne comprend pas certaines créations de certains auteurs, on doit les publier parce qu'il y a de la qualité. Et Jean-Pierre a mené Métal hurlant jusqu'au bout, parce que c'est lui qui a inventé une nouvelle génération d'auteurs aujourd'hui. Donc il y a deux générations, celle de Pilote et celle de Métal hurlant, l'écho des savanes aussi et tout ça, et c'est toute une suite. Mais cette suite a une réalité, elle a un lien total, et donc voilà. Donc cet avion n'a jamais pu rouler, même au Qatar. C'est formidable, non ?
Absolument.
Avec le pognon qu'ils ont, on aurait pu construire des chiottes spatiales avec évacuation immédiate des extraits intérieurs du corps humain.
Reprenons.
Alors nous reprenons, merci messieurs, et on va commencer par, non pas par une visite détaillée et minutieuse de votre lieu, on est un peu à l'intérieur de votre crâne ici, Philippe Druyer. On va pas commencer par le lieu lui-même, mais on va commencer par une sorte de portrait de Philippe Druyer selon les astres, qui n'est pas fait ce soir par Antoine Guillot, mais par Céline Duchesnay, qui est notre pitié et qui est notre prophétesse et qui est déjà sur son trépied.
Alors, lorsque je vous ai rencontré, Philippe Druyer, c'était il y a 2 ans, et vous m'aviez parlé d'une rencontre que vous aviez faite avec un astrologue, un bon m'aviez-vous précisé qui avait fait votre dème à une astrologue. Alors, c'est devenu un homme entre-temps dans ma tête. En tout cas, elle avait fait votre dème et elle avait tenu de mémoire à peu près ses propos. Elle vous avait dit, mon pauvre ami, c'est un peu difficile. C'est une vie de rupture, un combat permanent. Lundi, il fait beau. Mardi, c'est la catastrophe. Mercredi, il fait beau, à nouveau une éclaircie. Mais attention, jeudi, c'est la tempête. Pas de continuité dans la paix. Et alors, sans s'apesantir sur la disposition particulière des planètes à votre naissance en juin 44, des planètes bien noires, on ne va pas répéter l'histoire, parents fascistes, Philippe Henriot, fuite en Espagne franquiste, mort du père, retour en France, succession de déménagements, mort de Nicole en 76, rupture donc, discontinuité certes, mais continuité dans la création. Peut-être dû à d'autres ondes émises par ces drôles de planètes plus sympathiques, celles-là, et qui s'agitaient au-dessus de votre berceau, celle que votre bonne astrologue n'a peut-être pas su voir. Alors, Bilal avait dit que vous veniez de la planète Mars, comme si vous étiez tombé du ciel, un extraterrestre allumé, ça ce sont vos mots, inclassable, passant l'espace d'une seconde d'une émotion forte à une autre, du rire aux larmes, un goût coriace pour la contestation, l'anticonformisme, l'étrange, les phrases, la drogue et autres substances illicites. Jeune homme, dites-vous, vous auriez eu le choix entre la tôle ou l'HP, mais vous avez préféré l'art. Alors toutes ces idées folles que vous aviez dans la tête, vous les avez transcrites dans vos dessins. On y découvre des mondes parallèles, des paysages impossibles, des dieux, des démons, des créatures hors normes, des ambiances psychédéliques qui faisaient triper tous les gobeurs d'acide de l'époque. Car Philippe Druillet dessine ce qu'il voit, des histoires de fin du monde, pour ne pas paraphraser Jean-Pierre Dionnet. Il faut dire qu'en matière de fin du monde, Philippe Druillet, vous êtes plutôt un expert, car chez les Druillet, on est médium. Un don transmis de génération en génération, que vous tenez du côté maternel, votre mère l'avait, votre grand-mère aussi, et une manière de ressentir les choses, de percevoir les ondes négatives, une forme de préscience qui fait que ce que vous savez toujours ce que vous avez à faire, une sorte de sensibilité exacerbée aux choses invisibles et qui n'est, je crois, pas toujours très facile à vivre. Ce qui explique, par exemple, pourquoi vous avez autant déménagé, alors ça je ne sais pas, en tout cas vous êtes capable de savoir si oui ou non une maison est hantée, simplement en la reniflant. Vous savez s'il y a eu un crime sur place, vous pressentez les catastrophes, vous savez dès le matin si la journée va être bonne ou pas, visionnaire ou pas, en tout cas dans vos dessins même, il y a une forme d'anticipation qui, par exemple, en relisant Nosferatu, votre BD qui est sorti en 89, n'a pas eu le souffle coupé en croyant voir le champ de ruines métallique du 11 septembre. Alors, est-ce que tout cela vient de votre cerveau que vous qualifiez de reptilien, une mémoire ancestrale et inconsciente qui remonte à l'âge de pierre, dites-vous, une sorte d'homme des cavernes, instinctif qui a vu le nez, sait où il met les pieds. En tout cas, vous restez connecté à l'homme de Cro-Magnon, à mettre peut-être en lien, c'est une supposition, avec ce rêve récurrent que vous faites depuis votre plus tendre enfance, celui où vous êtes poursuivi par des tigres à dents de sabre, hein, une traque qui finit par la mise à mort de Philippe Druillet, déchiqueté par les fauves. Mémoire des temps anciens, d'où vous vient peut-être votre surnom, celui que vous vous donnez, celui de la bête. Ce qui fait que on regarde peut-être d'un autre œil cet œil de rhinocéros, pardon, cette tête de rhinocéros sous laquelle je me suis placée très précisément, et qu'on peut voir comme une sorte de trophée, une victoire peut-être sur votre rêve, un rappel à l'ordre de la nature sauvage et indomptable prête à jaillir en chacun de nous, ou alors peut-être une porte ouverte au monde parallèle, les rhinocéros dans l'imaginaire occidental ayant longtemps été confondus avec des licornes.
Alors, qu'en pense la bête ?
Ben, je pense que nous avons fini l'interview, tout est dit, c'est clair, net et précis. Non, les changements d'atelier sont dus à une enfance pas très drôle, pour les raisons qu'on connaît, puisque ça a été dit dans mes mémoires d'Elyrium, c'est le côté nomade. Bon, c'est clair, je me suis pas engueulé parce que c'est mon meilleur ami avec Bilal, j'ai dit, bon, écoute, toi tu es peut-être, comment dire, un exilé yougoslave, moi je suis un exilé français. Mon père étant mort en Catalogne, ma mère est mon père condamné par mort en contumace, donc moi je suis le seul exilé français. Bon, très bien, il y a 12 000 questions. Il est vrai que dans mon travail, d'une façon inconsciente, je n'en sais rien, j'ai la mémoire ancestrale de l'être humain. Quand j'ai vu sortir, Jurassic Park, d'une part parce que j'étais un des premiers à me battre en France pour l'image de synthèse, donc je savais que ça serait un futur cinéma, et il y a tout cela. Ensuite, bon, qu'est-ce qui se passe? J'évolue, je vis. Je ne suis pas bipolaire, mais tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, dans mon boulot, ne s'est jamais passé dans la paix. Ça a toujours été un combat, ça a toujours été une violence, y compris vis-à-vis de moi-même. Et donc, je me pose des tas de questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, ça c'est clair. Puis j'en ai rien à foutre en plus. Je vis ma vie, je fais mon boulot, mais il est vrai que dans cet atelier, ou tous ceux que j'ai eus, ce sont des endroits de travail. Je dois rajouter, bon, ça n'intéresse personne, mais j'ai eu un accident l'année dernière, et j'ai un bras droit paralysé encore pendant 6 mois, pour vous dire que quand même, quand on rentre dans son atelier et qu'on ne peut pas travailler, c'est quand même une douleur absolument atroce. Bon, les choses évoluent très bien, je vais m'en sortir. L'atelier, c'est quoi? C'est la planque, c'est la caverne. Et dans cette caverne, on amène les choses qu'on aime, les travaux en cours, comment dire, la patience de la non-patience, une sorte de folie. Mais je me suis toujours posé la question, et je le dis grâce à Benjamin Legrand, mais il est vrai que je ne sais jamais où je suis, je ne sais jamais. J'ai du grand respect pour les Grecs et les Romains, ils avaient, tous les matins, ils avaient comme un oracle qui leur disait « aujourd'hui vous ne sortez pas, c'est pas un bon jour ». Mardi, ça vient de Mars. Et je sais qu'il y a des jours, étant non bipolaire, parce que bipolaire c'est une maladie, comme on me dit parfois, vous êtes nostalgique. Je suis pas nostalgique, j'ai de la mémoire. C'est différent. C'est un truc important. Mais l'atelier, c'est l'endroit de recueillement. J'aime à la fois travailler sur des films, sur des séries télé, parce que j'aime partager mon boulot avec des êtres humains. C'est fabuleux. Et puis apparemment, on a besoin, envie d'être seul chez soi. On m'a dit toujours, mais au stade où tu en es, pourquoi tu n'as pas d'assistant ou d'assistante? Non, pourquoi? J'ai des choses à faire à droite et à gauche, mais j'ai besoin d'un moment de recueillement. Et il est vrai que, et je le dis dans la monographie, c'est une chose qui m'obsède. Comment j'ai créé cet univers, même s'il est dû au cinéma, à la littérature, à un ensemble de choses, à Gaudi qui est le seul architecte lovecraftien existant au monde, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Je ne rêve jamais de Sloane. Et je n'ai trouvé que ce mot idiot que tu viens de dire, puisque c'est moi-même qui l'ai dit, tout d'un coup, je me mets au boulot et j'ouvre une porte. Et je me trouve dans un autre univers. C'est un journaliste des Arts Rock qui a dit, et tu l'as cité, Druyer dessine ce qu'il a vu. Ouais, peut-être, mais M. Druyer, il est à l'acide d'une façon naturelle. Surtout à l'époque, quand j'ai démarré, jeune, j'en voulais, j'avais une rage absolument totale, et je voulais expliquer que je n'étais pas le seul à penser la même chose. Et il est arrivé le miracle, grâce à René Goscinny et Albert Uderzo, donc je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, Claude Moliterni aussi, qui m'a aidé dans Phoenix et autres. Grâce à Astérix, beaucoup d'entre nous, première génération, nous avons pu nous exprimer. Mais ok, je le répète. Maintenant, ce mystère qui pèse sur mon dos, comment j'ai inventé des délires pareils? Je n'en sais strictement rien. Alors des fois, ça me fout la trouille, ça me fout les jetons, mais quand je suis dedans, bon, c'est comme si j'avais une caméra. J'ai une caméra et je cadre sur une page, d'accord? Et là-dessus, ça déborde de chaque côté. Mais je peux pas faire des pages de 4,50 m. On est dans un délire total. Pas oublier qu'au 19e siècle, il y avait dans les provinces françaises des fêtes foraines où il y avait des dioramas. Mmh. On imaginait, donc vous imaginez une tente genre yourte ou genre, comment dire, cirque, où il n'y avait que des images. Ensuite, qu'est-ce qu'est le radeau de la Méduse ou le sacre de Napoléon, qui est un personnage un peu spécial. Bon, très bien, parfait. Ok, ce sont un besoin image. Et ensuite est arrivé le cinéma et Méliès. Et moi, j'ai un respect pour Méliès, j'ai un respect pour Jean-Christophe Averty et j'ai un respect pour Cocteau. Parce qu'ils ont fait le cinéma qui est l'image même du mensonge merveilleux. Quand j'ai tourné le clip de Scheller, on ne pouvait pas faire des travelling énormes. Je l'ai mis sur un plateau à roulettes que quelqu'un tirait avec une ficelle. on redevenait à l'histoire du mensonge merveilleux. Il faut construire, avec les moyens qu'on a, quelque chose qui peut être tout à fait sublime. Pour le reste, dans ce que tu viens de dire, il y a 3000 questions, alors j'espère y arriver. Si je me gourre, vous remettrez en place, ouais. C'est pas le problème. Mais moi, mon mystère, il y a quelqu'un qui a voulu faire un 52 minutes, il y a eu 4 ou 5 maisons de production, c'est-à-dire que j'ai en stock ici 1h30 d'histoire, le mystère d'Oyer, il y a eu le mystère Picasso, attention, pas de comparaison, on se calme. Mais il y a aussi le fait, très important, c'est que aujourd'hui la bande dessinée marche bien, elle se vend un peu moins qu'avant, mais elle est toujours présente, elle évolue très très bien, les livres sont de plus en plus beaux, et quelque chose se passe parce que ça devient de la bibliophilie. Nous sommes dans une période de bande dessinée maintenant où il y a plus de romans graphiques, j'ai une admiration pour Riyad Sattouf absolument étonnante, ou d'autres, ok. Mais moi, mon problème personnel, je suis pas un maudit, je ne suis pas Sloan. Sloan est une sorte d'Ulysse qui voyage à travers l'espace, c'est un bandit, c'est un type formidable, c'est quelqu'un de généreux qui s'est battu pour des causes, c'est un voyou, c'est un cinglé. Bon, mais c'est pas moi, petite partie, peut-être. Mais ce personnage, j'en ai besoin, je l'ai mis dans Salambo, je vais le mettre dans Dante, à la place de Dante, Virgile, lui, sera Virgile dessiné à la Druyer. Mais ce mystère, qui est le mystère de la création, qui dure depuis des siècles, Delacroix disait qu'elle est la plus belle étape dans un tableau, c'est l'esquisse. Après, il faut remplir. Je connais ça, parce que je fais de la peinture aussi. Mais avant tout, je revendique, parce que maintenant, on me dit, c'est formidable, à votre âge, j'ai 25 ans, bien entendu, dans la tête, c'est clair, ça se voit d'ailleurs, et on me dit, vous êtes un grand artiste, vous êtes un grand peintre. Non, je viens de la bande dessinée. Et c'est la bande dessinée qui m'a construit, et j'en ai fait des tonnes, pas tant que les grands succès ou les blockbusters, mais je viens de ça, et ensuite j'ai eu besoin, envie, désir de développer tout cela à travers d'autres supports. Sculpture, cet atelier, qu'est-ce qu'il y a?
Justement, mais, on va voilà, parler des ateliers.
Mes dernières créations, la sculpture de la chaise que produit Loft, des bronzes que j'ai fait avec Bockel ou avec Figini, des fondeurs, tout est un ensemble, c'est un milieu dans lequel je suis totalement bien et mal à la fois.
Parliez de cet atelier et des objets qui sont présents. Jean-Pierre Dionnet, vous avez connu tous les ateliers de Philippe Brillet, sauf peut-être le premier, qui était cette chambre de bonne mise à sa disposition par sa grand-mère.
Ah, ça c'est vrai, oui.
Ça, il n'était pas là, jour-là. Mais depuis celui de la gare du Nord jusqu'à celui d'aujourd'hui, vous avez connu donc les 6 ateliers. Comment vous pourriez marquer cette évolution rapidement? Parce que je pense que chaque atelier ferait l'équivalent d'une émission.
Pas du tout. Peut-être que Philippe les croit différents. En fait, c'est toujours le même atelier où parfois il a plus d'espace pour se développer. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours quelques œuvres amies ou d'amis, quelques fétiches. Il y a eu pendant longtemps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, l'intégrale de Jules Verne, que Druyer...
Oui, je l'ai vue, elle est dans la bibliothèque de Lonslow, je l'avais vue à un moment donné, voilà. À l'arrière. Alors,
monsieur, un œil clair.
Pour l'histoire, Druyer est un honnête homme. Soyez polis, hein. Druyer est un honnête homme, c'est-à-dire qu'on dit qu'un honnête homme vend 3 fois sa bibliothèque. Ouais. Lui, il a dû vendre 3 fois les Jules, ouais. Et il les a rachetés 1/4, 1/5, 1/6, un peu obsessionnel. Donc il se fait un nid, un cocon, et dans ce nid, dans ce cocon, pour moi, il n'est pas tellement dans une grotte, parce qu'il se vend d'être athée. Et pour moi, c'est le plus grand peintre religieux actuel. j'y vois la symbolique d'un peintre religieux. Alors, je ne sais pas de quel dieu. Je pense qu'il fait des cathédrales, comme on faisait au Moyen-Âge. Je pense qu'il peint Dieu, les anges et les anges déchus. Et je pense que cet athée est, depuis en gros Giotto, ce qu'il y a de plus proche de la peinture religieuse absolue.
Je suis un mystique républicain. On peut me commander une cathédrale demain, je peux la faire.
Très bien, on vient voir Philippe Druillet et on tombe sur Charles Péguy, c'est ce qu'on appelle la radio.
Je voulais juste dire...
Je voulais juste dire que,
en regardant par exemple la cathédrale de Milan, auquel je pense avec toutes ses tours, en regardant d'autres cathédrales, et pas Gaudi qui est complètement à part, je me suis toujours dit que ces cathédrales étaient en réalité des vaisseaux spatiaux qui attendaient assez d'énergie venue des fidèles pour décoller un jour, aller conquérir l'espace. Eh bien, lui, il a fait voler les cathédrales.
Nous sommes dans l'atelier de Philippe Druillet à Paris. Alors, à la verticale d'un trophée de rhinocéros dont l'œil fixe et la corne menaçante est tournée vers la porte.
En résine.
Au fond, les DVD, et puis Wagner, Karl Orff, tout ça, on va en parler bientôt. Et puis la table de travail. Mais quand je me tourne vers la gauche, je tombe, M. Guillot, sur quelque chose de plus funèbre, de plus macabre, et de parfaitement réjouissant.
Et surtout de parfaitement entouré. Il faudrait peut-être parler de l'entourage d'abord.
Parlons.
Parce que nous avons décoration sous la forme d'une affiche signée Philippe d'Oust-Blazy. Déjà, souvenez-vous, il y eut un temps où Philippe d'Oust-Blazy était ministre de la Culture. Donc, Grand Prix National 1996 des arts graphiques décerné par le ministère de la Culture à Philippe Druillet. Et cette décoration est juste en dessous d'une affiche reprenant en grand la couverture du numéro 2 de Métal Hurlant, avec ce visage hurlant, bouche grande ouverte sur du rouge, les yeux rouges comme ceux de Lon Sloan. Il faut rappeler que si Lon Sloan a les yeux rouges, ce n'est pas parce qu'il est atteint de myxomatose ou qu'il a bu trop de vin rouge, mais c'est parce qu'il a eu connaissance d'un savoir,
savoir
non terrien, non humain, et que le néo-terrien Lon Sloan en sera marqué à jamais. Yeux rouges qu'on retrouve à côté sous forme très stylisée, forme triangulaire et trapézoïdale qui donnera le logo Philippe Druillet qu'on retrouve sur les planches originales de Philippe Druillet. Si vous avez une planche originale qui n'a pas ce logo, c'est qu'elle a été volée quelque part, elle n'est pas adoubée par le maître. Et puis devant, trône une momie décharnée qui évoquera peut-être lointainement des souvenirs de celle de Tardy, où vous allez savoir Oscar Capac, par exemple, mais qui est enchâssée dans un socle de verre posé sur une table en bois sombre, reprenant encore une fois ses yeux rouges en forme de triangle. C'est vraiment la signature Druillet et qui, pour moi, marque un point terminal de ce qui a toujours été l'arc général de l'œuvre de Druillet, qui est celle de l'affrontement de la chair et du métal, de la vie et de la machine, de la révolte et de l'ordre, la rébellion contre cet ordre général, et qui, personnellement, enfant, découvrant les premières planches de Philippe Druillet à un âge sans doute qui n'aurait pas dû être le mien, m'avait donné corps à un cauchemar général qui est celui de l'humanité en prise avec la machine.
Je pense que les gueules hurlantes... Pourquoi les gueules hurlantes? Bon, c'est possible, c'est par rapport à mon enfance. C'est aussi une notion de manque, une notion de faim, parce que sans faire me leurrer Margot, j'ai crevé de faim à une époque et tout. Et je sais pas, c'est un cri, c'est quelque chose que... d'une façon totalement inconsciente. J'ai été contacté pendant longtemps par des psychanalystes qui me disaient « C'est très intéressant, Monsieur Druillet, vos albums, on aimerait bien... » Alors j'ai dit « Surtout pas, si vous détruisez ce qui est inconscient à moi, c'est fini, moi c'est je terminé. Fais Bécassine. Hein. » Bécassine qui rit quand on l'admire. Oui. Bon, très bien, c'est élégant, c'est fin. Et donc voilà. Donc le mystère, il est là. Il y a un mystère, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui existe, je ne sais pas. Mais je sais que je ne suis pas un fabuleux dessinateur, mais que j'ai inventé un monde. Et que ce personnage de Sloan, il vient de Catherine Moore, Chamblot, mon cher Jean-Pierre. Il s'appelait Norbert Smith. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, il correspond un peu à ce que je cherche. Parce qu'à mes débuts, je me suis dit, grâce à Lovecraft et à d'autres, et à Gaudi, j'avais la tête pleine d'architecture. Mais si je ne prends pas un personnage humain, un pivot, pour raconter ses aventures, ses choses et tout. Et j'ai trouvé Lon Sloane. Très important, Lon Sloane, l'origine de Sloane, comme je suis un amateur de cinéma, ce personnage pour moi était nécessaire. Donc on a toujours ces influences. Je ne suis pas Sloane, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai besoin de lui toujours. C'est quelque chose d'étrange et tous les scénaristes, les plus grands du monde, de cinéma ou de roman ou de théâtre, quand on invente un personnage, qu'on lui a construit une structure mentale, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Dimitri Aframoglou fait un Sloane qui s'appelle Babel, dont l'origine est de Serge Lehmann, qui sortira l'année prochaine. Et j'ai donc, nous avons eu de nombreuses discussions par rapport à cet album. Et je lui ai expliqué à un moment donné, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais il l'avait parfaitement compris. Et à un moment donné, chose idiote, il y a une image où Sloane fume une clope. Je dis non, Sloane, il fume pas une clope dans l'an 30 000. Il y a autre chose. Bon, très bien. Que j'ai connu d'ailleurs comme une certaine génération. Peut-être nous étions des précurseurs, n'est-ce pas, dans le domaine. Et donc ce personnage, nous sommes à la remorque de ce personnage. À ce moment donné, quand il est construit, il a une vie. Et l'auteur, prétendu auteur, est à la suite du personnage. Il ne peut pas... Il a construit quelque chose, et ce quelque chose, c'est que, eh ben, comme un con, il peut pas faire ça, parce que c'est pas son truc. C'est fabuleux, c'est incroyable. C'est le mystère de la création. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi les gens peignent depuis les grottes de Lascaux? Pourquoi on transmet des choses dans ce domaine? On ne sait pas. C'est quand notre ami, je sais plus lequel, a fait les photographies de la planète, notre ami, comment il s'appelle?
Francis Bertrand.
Voilà. Et on voit que même dans l'abstrait, même dans la peinture, tout ce que nous reproduisons est l'image de notre biosphère. C'est très étonnant. Bon, ok. Donc, pour revenir aux cathédrales, pour revenir à Dieu, moi j'ai une notion de Dieu très spéciale. C'est à la fois le grand architecte et c'est aussi le bing-bang, le mystère, dont personne ne saura jamais. C'est quelque chose de fabuleux. Et moi, si un jour, quand je mourrai comme tout le monde, le plus tard possible, parce que j'ai encore des choses à faire, j'aimerais bien être transformé en poussière d'étoiles dans l'espace. Ce serait génial, non? Mais il manquerait de femmes.
Voilà l'autre bout de l'atelier de Philippe Druillet, à côté d'une gigantesque table à dessin encombrée de projets en cours. Et c'est surtout ce qui nous amène là, Céline, c'est ce qu'il y a dans la vitrine. Alors, quand vous m'avez parlé de l'objet que vous connaissiez déjà, vous m'avez dit « c'est un drôle de poisson ». des âges fort lointains, un peu lovecraftiens. J'ai dit, ah oui, le faux savant a dit c'est un sélacanthe. Eh ben non, ce non, n'est pas un sélacanthe.
C'est une limule. C'est une limule, un fossile vivant, une bête qu'on peut trouver dans les fonds marins, d'ailleurs pas spécialement profond.
On dirait un masque guerrier.
Exactement, et qui en fait est ronde avec une sorte de carapace qui est comme une armure. Et quand vous la retournez en dessous, il y a une multitude de petites pattes, des petites pattes qui servent à avancer, qui servent à dévorer, deux pattes derrière qui servent à nager, et surtout une sorte de longue queue qui pourrait ressembler à un sabre. Pas du tout, en fait, c'est une queue pour se retourner quand elle est à l'envers, et pas du tout pour se battre. Et c'est vrai que quand on voit cette limule-là, qui pourrait ressembler à un masque, à une œuvre d'art, ah oui, j'ai oublié de dire aussi, la limule a quand même une spécificité, c'est qu'elle a le sang bleu. Et je me suis demandé si c'était cette histoire de couleur du sang qui est quand même tout de même assez originale, ou alors la forme de cette bête qui vous a inspiré, ou peut-être qui a pu croiser Sloane.
Une réponse tout à fait débile. J'ai un ancêtre évêque bâtard royal. Ça m'a profondément amusé, moi, en tant qu'office de concierge, de savoir que dans le Gers, il y avait Monseigneur Druyer, bâtard royal. Pendant quelques mois, je me suis dit, je ne suis plus concierge, je suis quelqu'un d'anobli. Ça, nous voyons le phrasé de notre cher acteur. Donc, bref. Non, en vérité, ne pas oublier que j'ai une maison à Herblay, où j'habite, et je suis passionné par tout ce qui est l'art cinégétique. Ce qui veut dire que la maison là-bas est pleine de livres, pas ici, bien entendu, parce que la surface est plus grande, et que ce mystère de travail que j'ai est basé sur les insectoïdes. Je suis collectionneur de Goliath. J'ai parlé un jour avec un spécialiste qui était un grand spécialiste de ce domaine, et je lui dis, mais pourquoi dans certaines ethnies africaines, quand on voit des scarabées qui sont à la fois noirs, blancs et, comment dire, marrons, comment trouvez-vous le rapport avec l'être humain qui, lui, peint ses masques et ses boucliers de la même manière? L'autre, tu dis, ben non, je vois pas. Ben, j'ai dit, il est dans sa biosphère. Et j'ai acheté dans un magasin spécial un pou de mer. Vous allez vous marrer. Le pou de mer, qui a plusieurs millions d'années, je l'ai, il fait 45 centimètres. J'imagine le pou de mer de Normandie, qui est, nous connaissons, qui est gris, qui sautille sur le sable, et en plein été, à Deauville, le pou de mer qui vient des Philippines, surgit de la plage, je vous garantis que l'été est foutu. C'est des dents de la mer. Ok ? Très bien. Autre chose, j'ai remarqué, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis plutôt insensitif, j'ai discuté aussi avec l'art samouraï, parce qu'un de mes maîtres en cinéma, c'est Kurosawa, et j'en ai beaucoup, ça Jean-Pierre le sait, et il y a les Philippines en dessous du Japon. Les masques de samouraï sont basés sur les crabes. Je suis un collectionneur de crabes des Philippines. Ce sont des vaisseaux spatiaux. C'est extraordinaire, c'est fascinant. Et à travers ça, je construis mon travail. C'est pour ça que je n'ai pas rompu la chaîne entre les milliers d'années, 900 000 maintenant, je crois, espèces humaines et autres, je peux me tromper, les dinosaures, c'est fabuleux, c'est 150 millions d'années, fabuleux, quant à nous, nous sommes, comme disent beaucoup de scientifiques, nous sommes les derniers arrivés et nous serons les premiers partis, je parle des êtres humains, et c'est bien parti pour ça, et tout ça fait partie de ma, comment dire, de mon travail, de ma curiosité. Moi, fils de concierge sans culture, avec un passé merdeux, je passe mon temps dans les musées, partout, et surtout, je construis mon travail à travers les puces. Parce qu'aux puces, quand on connaît, comment dire, l'antiquaire, on a le droit de soulever un vase galet pour voir comment c'est fait. On a le droit, quand j'ai travaillé pour Benjamin Rothschild, qui à Genève a évidemment des chefs-d'œuvre et du mobilier, et quand j'ai travaillé par lui au mobilier, tu ne vas pas au musée du Louvre pour dire je peux ouvrir la commode, tu te prends 15 coups de fil dans la gueule. Je dis qu'un jour la Joconde, je ne sais pas la gueule qu'elle aura dans 10 000 ans, mais pour l'instant il y a le bunker comme la Pietà de Michel-Ange, et j'ai dit un jour il y aura deux mecs en armes de chaque côté, hein, d'accord. Et tout ça vient, ce mélange de folie, de délire m'a nourri, et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc tous les insectes pour moi c'est quelque chose de fabuleux. Les masques samouraïs sont dus à la biosphère, au travail où ils sont, à la vie qu'ils mènent, parce qu'ils regardent la nature. nature. Donc voilà. Mais la notion de mémoire, c'est inconscient. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai été contacté par des sociétés initiatiques extrêmement précieuses et d'autres qui l'étaient un peu moins. Mais ils m'ont dit, comment pouvez-vous, vous, sans culture, retrouver des signes, des symboles, des arcanes? Je n'en sais rien. Je suis donc un médium, c'est vrai. C'est très étrange. Aparté douloureux, quand mon épouse Nicole est morte, ça a duré 15 jours, 25 jours à l'hôpital, j'y étais tous les soirs, et je partais à 8 heures, et un soir, je suis resté. Personne ne peut m'expliquer ça, et c'est la nuit où elle est morte dans mes bras, à 2h15 du matin. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc le problème, il est là. Donc j'ai à la fois ce poids, qui est d'une préscience de choses qui ont construit mon travail, et ne pas oublier aussi, parce qu'il y a l'idée de l'artiste, mais une fois que l'idée de l'artiste est construite, moi je construis mes planches ou mes toiles sur une feuille 21-27, parce que je trouve le cadre qu'il faut. Ensuite, je le bâtis comme un architecte sur la grande planche. Mais pourquoi ? Je le fais, je le construis, et je ne sais toujours pas pourquoi. Et ça, c'est la chose qui me poursuivra jusqu'au bout.
Vous avez de la mémoire, Philippe Dourrier, qui vient de temps archaïque, mais qui vient aussi d'un temps plus récent, qui est pour moi fondamentalement le 19e siècle, en termes pictural en tout cas. Et c'est ce qui m'a toujours frappé dans votre œuvre et qui m'a permis aussi de m'ouvrir à l'histoire de l'art, c'est que toute la saga Lone Sloan et tout ce que vous avez fait, c'est de l'anticipation, mais qui en même temps est très ancré dans une imagerie qui serait celle du 19e siècle. C'est comme du rétrofuturisme d'une certaine façon. Alors, il y a eu les grands Gustaves, tous les Gus qui vous ont accompagné. Flaubert pour Salambo, Moreau et Doré. Et il y a ceci de très fascinant dans votre œuvre qu'on a ces époques qui s'entrechoquent. C'est un regard tourné vers le futur, mais très ancré dans le passé. Ces influences, vous avez baigné dedans parce que vous dites que vous le faites sans le savoir, mais...
La seule personne qui peut répondre à ça, qui l'a fait d'une façon admirable, on n'est pas là pour se cirer les pompes, c'est monsieur Jean-Pierre Dionnet, qui a dit, si mes souvenirs sont bons et tu me corriges, nous avons été élevés aux plus grands illustrateurs du 19e, à la plus grande culture du monde, nous en sommes imbibés. Ensuite, dans les années 40, 50, 30, il y a eu les grands écrivains de science-fiction, et nous avons fait une transition entre cette période folle du 19e, de sculpture, de peinture, de délire total, et nous l'avons absorbée totalement, et elle nous a servi à projeter dans le futur. Aujourd'hui, quand on me dit, quand on me parle de pollution et autres, j'ai dit l'autre jour, ayant lu Thomas Dish, Philippe K. Dick, John Brunner, et j'en passe et j'en oublie parce que je suis pas très en forme, Ballard bien entendu, et la première fois où je me suis dit, en prenant ma voiture pour rentrer dans ma maison d'Herblay, il y a 7 ou 8 ans, je vois sur le périphérique, réduisez la vitesse pour cause de pollution. et je me suis dit, tout ce que j'ai lu, tout ce que ces gens ont construit, tout ce qu'ils ont imaginé, et je le rabâcherai jusqu'à mon lit de mort, ils ont inventé le monde d'aujourd'hui, d'une façon exacte. Alors, est-ce que les politiques lisent de la science-fiction? Sûrement quelques-uns, pas tous, mais c'est là où nous avons grandi. Et Jean-Pierre et moi, nous avons cette connaissance, parce que nous avons puisé dans ce qui nous a formé, pour le transformer, pour le projeter et pour l'amener vers le futur.
Jean-Pierre Dionnet.
Oui, en 76, dans Métal hurlant, Jocelyne, misanthrope qui a disparu depuis, a dit, et je me souviens qu'un camarade qui dirigeait le magazine Jalouse m'a sorti l'article, parce qu'on oublie ce qu'on fait quand on a fait beaucoup de choses, a dit « La fin du monde a lieu cette année », on était en 75-76, « elle sera lente, mais ça y est, elle est commencée ». Et en fait, hélas, Joe Staline a eu raison, nous sommes dans une fin du monde without a bang, sans bruit, toute douce. Ça ne veut pas dire que ce qui va succéder ne sera pas absolument passionnant, parce que dans les imbrications de Druyer, on oublie que l'homme-machine, dont a parlé Antoine, peut aussi être une autre forme de survivance. Nous, on n'a pas peur des robots. Je pense que si Philippe, on lui dit, on peut te transférer dans un corps androïde et tu pourras habiter sur Mars. Voilà, mais je te propose un corps androïde tout à fait conforme pour
avec
Mars.
Avec la quéquette.
Avec quéquette, si tu veux, toutes les options.
Très bien.
Tu pourras mourir à côté des rois martiens. Est-ce que ça t'intéresse pour gagner 100 ans de plus?
Réponse. Non, j'ai besoin de 20 ou 30 ans de plus. Parce que simplement, j'ai remarqué une chose, c'est très important ça. Quelle est d'une vie? Bon, on parle de 120 ans. Bon, pour un artiste, mais pour n'importe qui, pour un ébéniste, pour un artisan. On paye 20 ans à la République dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire l'enseignement, dans lequel je me sens très mal. Il est toujours de bon ton de dire « j'étais vous un mauvais élève ». Non, moi j'étais dans les écoles de banlieue ou de gens de maison, les gens n'étaient pas à la hauteur. Et je n'étais pas bien. Ensuite, bon, heureusement, très vite je me développe et je deviens photographe parce qu'on dit « qu'est-ce qu'il va faire ce crétin ?» C'est un imbécile. Je me fais foutre de la porte de l'école Boulle, je me fais foutre à la porte de l'école Estienne, et il y a 4 ans, je fais une gigantesque expo à l'école Estienne. Excusez-moi, ça fait plaisir. Bon, ok. Donc, on est dans ce système et on évolue. Donc, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'étais
où? Tu viens de dire, en gros, que tu préfères rester humain. Que tu n'avais pas envie d'être transféré dans un corps métallique.
Et ça, c'est bien aussi parce qu'on a parlé du phénomène de Sloane qui a été trop loin dans la recherche, comme dans Wotan, dans Wagner, qui a été initié et donc il a perdu un œil. Bon, c'est parfait. Ça, c'est une évolution. C'est un système. Mais je suis dans ce délire complet. Là, je perds le fil. Je suis désolé.
Tu es dans ce délire complet, mais tu veux rester ce que tu es.
Voilà, c'est ce que je voulais
pour
dire.
Pour produire très, encore
très exactement,
20 ou 30 ans.
En ayant inventé toute une cosmogonie de dieux et de machins et autres, je me rapproche de plus en plus de l'être humain, ce qui est une chose tout à fait normale et importante. Et en même temps, de plus en plus, je perds confiance en l'être humain. Nous sommes capables aujourd'hui d'envoyer un satellite sur une comète. C'est quelque chose de prodigieux dont Jules Verne a pensé et tout. Et puis, il y a des gens qui égorgent des gens avec un couteau rouillé. Donc, ça, c'est l'espèce humaine. Et donc, nous sommes des animaux. Il y a des gens qui ont autant de bonheur dans le mal que dans le bien. Et c'est un peu imbécile comme terme. C'est même schématique. Mais je n'ai aucune confiance en l'espèce humaine. Mais sans mes amis humains, je peux pas vivre. Je peux pas vivre sans femme. Je ne peux pas vivre sans amis. C'est pour moi quelque chose qui est important. Donc voilà.
Alors, il y a un de vos amis, pendant que vous parliez, Philippe Brier, je suis allé fouiller, mais respectueusement, rassurez-vous.
Bien sûr.
J'ai mis la main sur un livre historique qui est extrêmement convoité, si j'ose dire, par les collectionneurs, les bibliothèques, les amateurs d'objets rares. Mmh. C'est d'un de vos amis, Gustave Flaubert. C'est un des trois Gustave, et c'est Salambeau. Donc c'est l'exemplaire que vous avez acheté dès que on vous a parlé de Salambeau.
Dans la préface de la réédition, c'est à force des déjeuners que nous passions le vendredi, à un moment donné, d'une façon souveraine, j'ai dit, bon, le Philippe commence à me casser les oreilles, pour être poli, nous sommes sur France Culture, les gros mots sont interdits, et je vais chez Chan, au boulevard Saint-Germain, et puis je dis, bon, ça va, il va me gonfler encore dans les deux jours, et puis je vais acheter Salammbô. Et à ce moment-là, je découvre qu'effectivement, c'était pour moi. C'était absolument fabuleux. Et comme je disais tout à l'heure, avant que nous commencions l'émission, parce qu'on peut dire aussi que on prépare une émission en tant que professionnel, quelqu'un qui est capable de écrire un bouquin comme Salammbô, qui n'était pas très apprécié par l'intelligentsia française, on préfère évidemment Madame Bovary, que j'emmerde profondément, désolé, et il écrit Un cœur simple. Et cet homme est capable d'un minimalisme absolument total et d'un grandiose absolument sublime. C'est étonnant. Et alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que Flaubert disait « Je plains », parce que je n'avais pas compris le truc au début, « Je plains le rapin », c'est-à-dire qu'on appelait les rapins au 19e, c'est-à-dire les peintres des illustrations, « Je plains le rapin qui sera capable de dessiner la tronche d'Amilcar ». Quand j'ai pris ça, bêtement, parce que je ne suis pas si intelligent que ça, ça se voit, je me dis, putain, il se fout de ma gueule, le con, ou quoi, là? Et puis, ça voulait dire simplement une chose profonde. J'ai imaginé Salammbô, parce qu'il ne reste rien. J'ai fait le même séjour que Flaubert, j'étais à Sica, et j'ai vu les portes puniques et tout, dont il ne reste rien. Et donc, il a tout imaginé. Ce qu'il voulait dire, c'est que si un illustrateur est capable, comment dire, de rendre la même folie que moi j'ai créée, et inventé, là, il aura réussi son coup. Ça m'a permis de rentrer au Louvre et d'aller tous les deux ans à Rouen pour les fêtes de Monsieur Flaubert.
La lecture d'un extrait de Salammbô.
Oui, alors là, c'est dangereux. Hein. Je ne suis pas de la comédie française.
Non, non, mais peu importe. Heureusement, c'est pour ça qu'on vous le demande.
Mais je remarque que parfois, tu fais exactement la voix de Louis Jouvet.
Oui, j'adore.
Ah bah avec la voix de Louis Jouvet.
Oui, tiens, c'est du nouveau.
Moi, je pense, monsieur Drouillet, que la voix de Guitry est plus intéressante.
C'est possible, mais il faut le temps de le dire et avoir la conscience de le faire. Ah, c'est où ça? C'est où? C'est formidable. Voilà, donc moi j'ai commencé avant d'aller voir Philippe Coquelin et que je lis, c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qui l'avaient commandé en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Eryx. Et comme le maître était absent et qu'ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté après être massacrés plus tard. C'est pour ça que j'ai fait une version de Salammbô où je remets les Carthaginois comme les nazis qui utilisent les êtres humains à leur bonheur, à leur puissance, et quand ils font les payer, ils les tuent. Et un personnage étonnant arrive, c'est Mato. Voilà.
On termine cette émission avec justement Jean-Pierre, la présentation de cette monographie consacrée à Philippe Druillet.
Alors Mel Publishing, ça pourrait être un surnom de rappeur, Mel. Non, c'est Michel-Édouard Leclerc qui s'est fait sa maison d'édition pour faire des livres idéaux. Il y en a eu d'autres avant, de Crécy, Matotti, tous sublimes. Celui-là, quelque chose de particulier, c'est que de Crécy ou Matotti ont essentiellement produit de l'art graphique. Et quand on voit ce livre-là, on voit le passage de Druillet par la bande dessinée, la peinture, les objets, la résine, donc quelque chose qui est l'équivalent moderne de ce qu'était le bronze, parce qu'il utilise aussi les techniques de notre temps. Et on voit qu'il a démultiplié son univers sur différents supports. Et le livre est assez étonnant, car ce qu'on découvre, c'est moins un artiste, que je ne discute pas, qu'un artisan. Mais pour moi, il n'y a pas de plus belle chose qu'un artisan. C'est quelqu'un où les chaises, car il fait des chaises, oui. On peut s'asseoir dedans.
Là,
les
pieds, le fauteuil des rois maudits,
les pieds, oui, mais les pieds, on peut, ils sont à la bonne hauteur. C'est aussi des chaises où on peut s'asseoir. Moi, je suis très confortable dans la mienne.
Antoine Guillot, vous êtes confortable dans
la vôtre. C'est très important.
Parfaitement bien assis. C'est un fauteuil
confortable.
Moi, je suis accoudée, donc je suis bien campée sur mes pieds, oui.
Et donc, je crois que Philippe Druillet, dans ce livre, prouve qu'il est, et ça, c'est très 19e, à la fois un artiste visionnaire et à la fois un artisan, un maître compagnon, un compagnon du devoir. C'est-à-dire qu'il a fait son chemin, il a appris, il a retourné les vases galets pour voir comment c'était fait en regardant en dessous. Il a acquis les techniques de ses autres arts qu'il ne maîtrisait pas au départ, en apprenant des anciens les secrets. Alors il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire, puisqu'on ne peut plus s'empoisonner au mercure pour faire la lique laiteux. C'est tant mieux pour les humains. Mais il a remplacé ça autrement, avec des couleurs iridescentes qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire au début du siècle. Non, j'y vois un maître compagnon du devoir dans une cathédrale et qui signe au coin d'une pierre et qui peut-être a mis cette fameuse pierre de voûte que, paraît-il, si le Seigneur ne payait pas, on pouvait enlever et la cathédrale s'écroulait.
Prochain projet du compagnon du devoir, Philippe Druillet.
Le composant du devoir, tu sais ce qu'il te dit, d'une part. Deuxièmement, c'est de tenir la route le maximum, parce que je n'ai pas peur de la mort, absolument pas. Ça m'intéresse d'ailleurs, parce que j'ai fait 2 comas épileptiques et aucun souvenir, dont c'est le débranchage. On ne sait pas ce qui se passe après, mais je n'ai pas envie de vivre 300 ans, comme Sloane, mais simplement j'ai encore des choses à faire. Donc je dois gagner 10 ans, je demande 10 ans, pas plus, ce qui n'est pas énorme, et après, chaque jour qui passe est un jour de gagné, et basta, quoi.
Merci Philippe Druillet pour cette rencontre dans votre atelier parisien, puis merci pour tout depuis maintenant 50 ans.
Eh bien, je suis merci. Heureux d'avoir participé à cette agape hystérique, et qui était absolument remarquable.
Merci. Et maintenant, madame, messieurs, il est temps pour nous de retrouver Christophe Beer.
Le lundi 14 novembre, à Drouot, l'étude Joron de Rheims dispersera 160 lots des archives Pierre Molinier, provenant de sa fille Françoise. Le marché de l'art applaudira. Son œuvre scandaleuse est désormais largement reconnue. Elle a révolutionné l'érotisme par de troublantes compositions de corps aux jambes démultipliées, des autoportraits de l'artiste en travestie, obtenant une vulve par épreuve retouchée, baisant son double féminin, affinant sa taille au crayon compté. Les signataires médiatiques des avant-propos du beau catalogue saluent la réclusion fétichiste de Molinier et son bricolage obsessionnel. À les lire, ces enchères seraient une revanche posthume. Les photos qu'il tirait dans sa cuisine, les collages contretypés, les rares photomontages originaux, les noirs profonds de ses épreuves de référence susciteront un émerveillement toujours intact. Mais la vente se distinguera par les accessoires fétiches de son univers photographique. La grande poupée sans bras, aux jambes coupées à mi-cuisse, qu'il modela sur une armature de bois avec un enduit de plâtre peint couleur chair. Le loup souple de satin noir sur tissu blanc, aux yeux évidés qui dissimulaient ses rides, le tabouret de bar et le fauteuil de style Louis XV qu'il avait tapissé de velours rouge. Les objets du maître du vertige, chargés de magie, doivent revenir à d'authentiques pervers. Les escarpins noirs de la maison Gary, craquelés sur les côtés, trouveront les pieds pointure 42 d'un adepte du talon haut. Chaussé de l'odeur de Molinier, il sera entraîné par l'exaltation érotique de l'autoportrait. Un fustigateur s'emparera de la cravache en cuir à pommeau. Pour sûr, il ne la mettra pas sous cloche. Un sodomite s'enfièvrera sur le god fait de bas de soie enroulé et lui redonnera une vie active. L'instrument de plaisir comporte des traces encore visibles, précision triviale de l'expert. Hélas, les collectionneurs mortifères en feront des reliques inertes. Il sera question de pièces uniques, de raretés, de variantes inédites, de tirages authentifiés par des cachets ancrés, verbiages administratifs des enchères, supplantés par la poésie sensuelle de Molinier. Attirés par cette vente exceptionnelle et funèbre, certains même spéculeront sur un revolver à poudre noire calibre 44 du chaman, pièce qualifiée d'émouvante, auquel est jointe l'éphéméride arrêtée au jour de son suicide. Ce n'est pourtant pas le Colt Frontière avec lequel il se tua, mais il leur fallait bien un peu de sang.
Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Stéphane Poitevin, Yann Fraissy, Claire-Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnay, Jean-Pierre Dionnet, Antoine Guillot et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine autour de Claude Miller. Bonsoir à tous.